Merci Jonathan. Et bonjour. Il y a quelques semaines, Charlie Hebdo faisait sa une sur une image dérangeante et provocatrice de Jésus sur la croix. On se moque de la croix. Mais il n'y a rien de nouveau. Sur les écrans, vous voyez un graffiti qui a été trouvé dans le palais impérial de Rome, dessiné entre le 1er et le 3e siècle. On voit l'image d'un homme crucifié avec la tête d'un âne. Et à côté, il y a un deuxième homme en position de prière avec le bras étendu. Et il y a l'inscription « Alexandros le fidèle ». On se moque de la croix et de celui qui s'y attache. Mais il n'y a rien de nouveau. L'apôtre Paul a écrit que la croix est un scandale pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Pourtant, l'Église chrétienne s'attache à la croix. Nous-mêmes, nous avons mis une croix sur le mur, très visible dès que vous rentrez dans l'Église. Mais quelle place donnez-vous à la croix? Quelle place a-t-elle dans votre vie, dans votre prière, dans votre espérance? Aujourd'hui, dans notre étude de l'Évangile de Jean, nous passons de la chaleur d'un repas entre amis à une nuit froide de trahison et d'injustice, de solitude et de peur. Mais dans la narration, l'auteur nous glisse plusieurs détails pour nous aider à comprendre le sens des événements qui s'enchaînent jusqu'à la croix de Jésus. Et donc, pendant que je vais lire, je vous invite à être attentif aux détails qui expliquent le plan divin qui est en train de s'accomplir. Donc, merci d'ouvrir votre Bible à Jean 18. C'est à la page 702, 702 de les Bibles blanches. Sinon à la page 1769 des Bibles, un gros caractère, et je vais lire à partir du chapitre 18, le verset 1 de l'Évangile de Jean. Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens. Et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir sur si. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» la troupe, le commandant et les gardes des Juifs s'emparèrent alors de Jésus et l'attachèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Or, Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre et il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, tandis que Pierre restait dehors près de la porte. Alors l'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit, parla à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre, « Ne fais-tu pas partie toi aussi des disciples de cet homme ?» Il répliqua, « Je n'en fais pas partie. » Les serviteurs et les gardes qui étaient là avaient allumé un feu de braise pour se réchauffer, car il faisait froid. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où les Juifs se réunissent constamment. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit. Ils savent, eux, ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Alors Anne l'envoya attacher à Caïphe, le grand prêtre. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en fais pas partie. » Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau et aussitôt un coq chanta. Je vais prier avant de dire à plus. Notre bon Père Céleste, nous te demandons de nous montrer plus de la gloire de Jésus et plus de la gloire de son œuvre à la croix. S'il te plaît, guide mes paroles et dirige nos réflexions. S'il te plaît. Amen. Amen. Jésus boit la coupe pour donner la vie. C'est notre premier titre. C'est aussi imprimé dans le bulletin des chants si ça vous aide. Mais on arrive au point dans l'évangile de Jean où Jésus a fini de préparer ses disciples pour son départ. Il a conclu ses prières et il part à un jardin bien connu par ses disciples. Et c'est là où Jésus va se rendre. Jésus se rend aux autorités religieuses et politiques, non pas parce qu'il est coupable, Jésus est bel et bien innocent, mais il se rend parce qu'il est un homme en mission. Il va boire la coupe pour donner la vie. On voit dans ce récit combien Jésus reste maître de la situation. Au lieu de se cacher, au lieu de fuir, Jésus va dans un jardin bien connu par ses disciples, y compris par Judas, celui qui a décidé de trahir Jésus. Judas arrive, donc il sait où trouver Jésus, et il arrive avec toute une troupe de gardes. Mais ça reste Jésus qui prend l'initiative. Est-ce que vous avez remarqué ça? Le verset 4, Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Ils répondirent, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus leur dit, « C'est moi. » Jésus est maître de la situation. C'est celui qui est trahi, qui cherche à se faire trahir, qui cherche à se faire arrêter, bien que Judas soit là. C'est l'homme poursuivi injustement qui se rend. Mais quand Jésus dit « Qui cherchez-vous ? » C'est moi. C'est là que nous voyons aussi une réaction étrange des soldats et des gardes qui sont venus arrêter Jésus. Au verset 6, lorsque Jésus leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Que se passe-t-il ici? Il se peut que dans les ténèbres de la nuit, ils pensent que Jésus s'avance pour les attaquer. Il se peut que les gardes soient tellement surpris par la reddition de Jésus qu'ils tombent par terre. Ils n'avaient jamais assisté à une arrestation si facile. Mais le lecteur de l'évangile de Jean sait que Jésus n'est pas un simple homme. Il n'est pas simplement la victime d'une injustice. Nous savons que Jésus est Dieu le Fils, pleinement Dieu. Nous avons déjà lu Jean 8, verset 58, où Jésus a dit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Et là, Jésus a pris le nom divin, « Je suis celui qui suis, Yahvé, à son propre compte. » Et là, l'auditoire a pris des pierres pour lapider Jésus, pour le blasphème. Alors ici, quand Jésus dit « c'est moi », il reprend les mêmes mots. « Je suis ». Et donc, à mon avis, les gardes reculent devant l'autorité du nom divin. Et nous nous souvenons de l'autorité, de l'identité divine de Jésus. Il est maître de la situation parce qu'il est aussi Dieu le Fils qui se rend. Mais Jésus doit insister, il demande à nouveau, « Qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth, c'est moi ?» Et il continue à être maître de la situation quand il protège ses disciples. Il a dit qu'il allait protéger ses disciples, il vient de prier pour cela, et maintenant il agit par amour, comme le bon berger qui protège ses brebis. Et même quand Pierre sort son épée, Jésus reste maître de la situation. Il s'avance pour accomplir sa mission. Il va boire la coupe. Et regardez, s'il vous plaît, avec moi le verset 11. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné à boire. » Jésus, Dieu le Fils, a reçu une coupe à boire de la part de Dieu le Père. Et il va la boire. Il va la vider. Et Jésus va accomplir sa mission jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que cette coupe? Qu'est-ce que cette coupe que Jésus va boire? Alors, dans l'Ancien Testament, parfois, nous lisons qu'il y a une coupe de Dieu de bénédiction. C'est le cas pour le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Il y a une coupe de bénédiction. Mais souvent dans l'Ancien Testament aussi, il y a une coupe du jugement de Dieu, une coupe du jugement divin. Et un exemple de cela se trouve dans Jérémie 25. Et je vous invite à ouvrir votre Bible à Jérémie 25. C'est à la page 503. 503, Jérémie 25. Et je vais lire à partir du verset 15. Nous parlons d'une coupe affreuse du jugement de Dieu. Jérémie 25, le verset 15. Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends dans ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et donne-la à boire à toutes les nations vers lesquelles je vais t'envoyer. Elles boiront, elles tituberont et elles perdront la tête devant l'épée que j'envoie parmi elles. Et ensuite, il y a une liste de toutes les nations qui vont subir le jugement de Dieu, qui vont boire cette coupe. Et je reprends la lecture au verset 27. L'Éternel m'a ordonné, annonce-leur, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, buvez, enivrez-vous, vomissez, tombez sans plus vous relever devant l'épée que j'envoie parmi vous. Et s'ils refusent de prendre la coupe de ta main pour la boire, dis-leur, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, vous en boirez, c'est certain. En effet, je commence à propager le malheur dans la ville à laquelle mon nom est associé. Et vous, vous resterez impunis? Vous ne resterez pas impunis, car j'appelle l'épée sur tous les habitants de la terre, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Et ici, dans l'évangile de Jean, Jésus va boire la coupe du jugement de Dieu, le jugement de Dieu contre le péché, contre notre rébellion. Et c'est pas que Jésus fait ceci contre sa volonté. Non, non, Jésus est maître de la situation. Et ce n'est pas que Jésus boit la coupe comme une victime innocente. Jésus, Dieu le Fils, agit avec son Père. C'est un projet commun. Le Dieu trinitaire agit par amour pour nous donner la vie. Jésus boit la coupe pour donner la vie. Et si Jésus boit la coupe, s'il vit la coupe, s'il endosse le jugement divin pour mes péchés, ça veut dire que je n'ai plus à le boire. Elle est désormais vide. Le jugement de Dieu est tombé. Jésus boit la coupe du jugement divin pour me donner la vie, pour vous donner la vie. Et est-ce que vous avez besoin de cela? Chaque chrétien doit dire, oui, j'ai besoin que Jésus boive la coupe du jugement de Dieu pour moi. Chaque chrétien doit dire, oui, je devrais faire face au jugement juste de Dieu pour mes péchés, mais Jésus l'a pris à ma place. Pierre, par contre, semble penser mieux savoir. Au chapitre 13, il n'a pas voulu que Jésus lave ses pieds. Il voulait donner sa vie pour Jésus. Et ici, encore une fois, il essaie de se mêler dans la mission de Dieu. Mais Pierre, il a besoin que Jésus boive la coupe pour lui, comme chacun de nous. Soit c'est Jésus qui boit la coupe à notre place, soit c'est nous qui allions, soit c'est nous qui allons boire la coupe à nous-mêmes. Alors, dans l'Antiquité, il y avait les échansons, les membres de la cour du roi, de l'empereur, qui servaient du vin au roi. Ils avaient la responsabilité de veiller à écarter tout risque d'empoisonnement allant jusqu'au point de goûter eux-mêmes le vin avant de le servir. Mais à mon avis, rares étaient les chansons qui buvaient du vin qu'ils savaient empoisonner. Ici, c'est Jésus qui boit la coupe empoisonnée à notre place. Il boit la coupe pour donner la vie. Et de plus, Jésus donne sa vie pour donner la vie. Jésus donne la vie. Jésus donne sa vie pour donner la vie. Car du jardin, Jésus est attaché et amené chez Anne, le beau-père de Caïphe, le grand prêtre. Et c'est là où Jésus subit un procès dont le verdict est pris d'avance. Jésus de Nazareth va mourir. Et le narratif que nous lisons est rempli de détails, à la fois pour nous plonger dans l'ambiance de ce qui se passe, mais aussi pour montrer qu'il s'agit d'un témoignage oculaire que nous avons. Cela dit, je trouve que le récit n'est pas facile à suivre pour deux raisons. D'abord, on bascule entre le procès de Jésus et le reniement de Pierre, mais aussi parce qu'on est un peu perdu dans les détails du grand prêtre, de qui interroge Jésus et où ça se passe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au verset 13, Jésus est amené d'abord chez Anne. Alors, Anne, c'est le beau-père de Caïphe. Caïphe, c'est le grand prêtre du moment. Et Caïphe, c'est le grand prêtre en fonction. Mais Anne avait été grand prêtre. Et il semble qu'Anne reste le grand prêtre du peuple, en quelque sorte. Dans son évangile, Luc nomme et Anne et Caïphe comme les deux grands prêtres. Et il semble qu'ici, Anne avait conservé une grande autorité. Et donc d'abord, Jésus est amené chez lui. Et donc c'est Anne qui interroge Jésus ici avant de l'envoyer au verset 24 à Caïphe, le grand prêtre en fonction. Mais c'est le verset 14 qui est notre verset clé ici. Verset 14. « Or, Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Caïphe, il cherchait un bouc émissaire politique. Il préférait la mort d'un homme, de Jésus, pour maintenir la paix pour le peuple juif à Jérusalem. Mais Caïphe ne comprenait pas toute la vérité de ce qu'il disait. Et effectivement, Jésus meurt pour donner la vie à beaucoup d'autres. Jésus meurt à la place de son peuple. Jésus donne sa vie pour donner la vie à son peuple. Et la semaine prochaine, nous verrons l'illustration concrète de cela avec Barabbas. Barabbas, un brigand coupable qui est libéré lorsque Jésus, l'innocent, meurt. Et cette semaine, nous allons nous contenter de cette phrase de Caïphe qui nous montre que Jésus donne sa vie pour donner la vie. Et Jésus, il ne fait rien pour se protéger, il ne se défend pas, il ne clame pas de son innocence, il subit le procès, le verdict est pris d'avance et il marche avec résolution vers sa mort. Pierre, par contre, tristement, renie le Sauveur pour sauver sa vie, pour essayer de sauver sa vie. Trois fois, on lui demande s'il est le disciple de Jésus, et trois fois, Pierre renie, après avoir dit avec confiance que Pierre, qu'il donnerait sa vie pour Jésus, il s'écroule. Et ça nous ramène à une discussion précédente que Pierre a eue avec Jésus. Pierre avait compris que Jésus était le Messie. Et Jésus lui a dit que le Messie devait souffrir. Et Jésus a continué pour dire à Marc 8, verset 24, 34, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Et ici, Pierre renie le sauveur pour essayer de sauver sa vie. Il a honte de Jésus. L'aboutissement final serait qu'il perde sa vie. Mais heureusement, nous savons que ce n'est pas la fin de l'histoire. Jésus reste maître de la situation. Il savait que Pierre allait le renier. Et quelques chapitres plus tard, après sa mort et sa résurrection, Jésus va souhaiter la paix à ses disciples, y compris Pierre. Jésus va rétablir Pierre. Jésus va lui confier une responsabilité particulière pour le début de l'Église. Et un jour, Pierre va mourir en tant que martyr. Et Pierre dira, Jésus a donné sa vie pour me donner la vie. Pierre va dire, Jésus a bu la coupe pour me donner la vie. Et est-ce que vous pouvez dire ça? Est-ce que vous pouvez dire, Jésus a donné sa vie pour me donner la vie? Jésus a bu la coupe pour me donner la vie. On peut toujours parler en termes généraux. J'ai mis ces deux titres dans des termes généraux. Mais la croix resterait un événement d'histoire, au pire, au mieux, un événement étrange, au pire, un sujet qui mérite la moquerie qu'il reçoit. Pourtant, dès que nous approprions la croix pour nous-mêmes, nous allons nous attacher à la croix. Nous allons chérir la croix. Dès que nous disons, Jésus a bu la coupe pour me donner la vie. Jésus a donné sa vie pour me donner la vie. Là, nous allons chérir la croix. Je n'ai pas à faire face au jugement de Dieu, car Jésus l'a pris. Je n'ai pas à faire face au jugement de Dieu pour mes péchés, parce que Jésus a déjà bu la coupe que je mérite. Et si c'est vrai pour tous nos péchés, c'est vrai aussi pour un gros péché en quelque sorte. Si vous êtes tracassé par le souvenir d'un péché que vous avez commis contre Dieu, contre les autres dans le passé, alors Jésus a bu la coupe du jugement de Dieu pour ce péché-là. Sachez que Jésus a déjà donné sa vie pour cette faute-là. Je me demande si, dans les années à venir, Pierre se souvenait de ces événements avec un pincement de cœur. Il se souvenait de l'instant où il a coupé l'oreille de Malchus, des trois fois où il a renié connaître Jésus. Pierre avait besoin de se dire, non, Jésus, il a pris le jugement de Dieu pour ce péché-là. Jésus a bu la coupe du jugement de Dieu pour cet instant de violence. Et de la même façon, s'il y a un péché dans votre passé qui vous tracasse, nous avons besoin de nous souvenir rapidement de la croix. Et donc notre texte aujourd'hui demande une réaction émotionnelle. Je crois que notre texte aujourd'hui demande une réaction émotionnel de reconnaissance et d'émerveillement. Il y a quelques semaines, nous avons parlé de comment Jésus a renoncé sa gloire céleste pour venir vivre sur terre. Soyons également émerveillés de ce que Dieu le Fils, il est venu mourir à la croix, boire la coupe du jugement divin. Il est venu donner sa vie pour nous. Et bien sûr, notre réaction ne se limite pas à nos émotions. Nos réactions émotionnelles vont se traduire vers une persévérance et un attachement à la croix. Mais soyons reconnaissants, soyons émerveillés devant ce qui se passe ici. On se moque de la croix, il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais nous aurons raison de revenir à la croix, d'être fiers de la croix. Et pour reprendre les paroles de l'apôtre Paul, c'est vrai que la croix est scandale pour les juifs et folie pour les non-juifs, mais nous prêchons un Messie crucifié, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Nous allons conclure avec un chant, avec le chant « Voici l'amour de Dieu pour moi ». Si, comme moi, le français est une langue étrangère, ce n'est pas un cantique facile à comprendre. J'ai dû chercher quelques mots dans le dictionnaire et parfois je trouve qu'il faut remettre les mots dans le bon ordre pour comprendre ce qui se passe ici, ce que nous sommes en train de chanter. Mais ce qui est génial dans ce chant, c'est la façon dont il exprime la réalité de l'œuvre de Jésus à la croix et notre émerveillement personnel. Alors, je vous invite à vous lever pour chanter. Pourquoi pas garder les paroles de ce chant sur vous cette semaine pour que vous puissiez continuer à en profiter. Chantons.